la génétique ont connu un véritable essor ces 30 dernières années. Avec leur diffusion, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan médiatique, s'impose désormais une tendance à « entre guillemets biologiser le social », c'est-à-dire à importer des grilles d'analyse et d'action inspirées de la biologie ou des sciences du vivant dans un très grand nombre d'univers. En particulier lorsqu'il s'agit d'intervenir sur notre santé ou notre bien-être. Et c'est cette question qui est au centre de ce livre aujourd'hui. La biologie peut-elle seule nous soigner? Par exemple, est-ce que la dépression peut seulement s'expliquer par un déséquilibre en sérotonine? Est-ce que le coup de foudre est juste le résultat d'une compatibilité phéromonale? L'allaitement maternel est-il la stricte condition du lien affectif mère-enfant? Ou encore, des variations génétiques peuvent-elles être tenues responsables de l'échec scolaire? Le sens des mots invite aujourd'hui Sinem Gunes, Justine Vincent et Laurine Tizi à parler du livre « Biologisation, les usages sociaux de l'argument biologique en santé » qu'elles ont co-dirigé avec Irem Nian Balsi. Elles ont choisi de nous en parler en trois mots « santé, biologisation et pouvoir ».
Le sens des mots, un podcast de ENS Édition.
Le premier mot que nous avons choisi est « santé ». Aujourd'hui, la santé ne se définit plus comme absence de maladie, mais elle renvoie plutôt à un système beaucoup plus complexe qui prend en compte globalement le bien-être de l'individu. On voit par exemple que l'Organisation mondiale de la santé le définissait déjà en 1946 comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Dans les travaux consacrés à la santé en sciences sociales, le concept de médicalisation apparaît comme paradigme dominant dans les années 1970. La médicalisation renvoie à la définition d'un problème quelconque comme un problème médical. En conséquence, elle justifie un traitement ou une intervention médicale. Par exemple, on peut parler d'un processus de médicalisation de la ménopause qui commence à être perçu comme un problème médical. On peut aussi parler d'un processus de démédicalisation comme celle de l'homosexualité, qui n'est plus considérée comme une pathologie depuis sa sortie de la nosographie psychiatrique américaine en 1973. D'une part, la médicalisation reflète la confiance dans les sciences médicales, mais d'autre part, permet de questionner le pouvoir et l'autorité médicale sur des questions qui n'étaient pas d'ordre médical auparavant. Le concept de médicalisation est souvent critiqué parce qu'il ne prend pas en compte la diversité des processus et des pratiques observées en contexte médical, que ce soit ces appropriations par les patients, les associations de patients pour obtenir un traitement, être médicalement reconnu ou légitimer un état.
C'est justement parce qu'on a voulu prendre en compte ces critiques et en souhaitant prendre en considération aussi d'autres acteurs que l'on a plutôt cherché à proposer la notion de biologisation, qui est donc sans grande surprise notre deuxième mot. Effectivement, c'est en s'appuyant sur des réflexions qui avaient été déjà initiées, notamment par Sébastien Lemerle et Carole Reynaud-Paligo, qui définissaient la biologisation comme le phénomène d'importation d'une analyse qui s'appuie plutôt sur la biologie pour expliquer un fait social et éventuellement agir sur lui ou chercher à le transformer. Donc on est vraiment parti de cette définition. Pour le dire autrement, c'est le fait de s'appuyer sur les sciences du vivant, alors avec des niveaux de connaissances par ailleurs très différents de cette biologie, pour essayer de comprendre un phénomène en effaçant ou en tout cas en euphémisant le pouvoir explicatif d'autres déterminants, par exemple plus sociaux. Sébastien Lemerle distinguait deux types de biologisation. D'un côté, la biologisation théorique qui revient plutôt à des questions épistémologiques, c'est-à-dire des conflits disciplinaires où chaque discipline cherche à asseoir sa légitimité. Ça va bien au-delà de la question de la distinction entre les sciences sociales et les sciences expérimentales. On peut retrouver au sein même des sciences sociales, par exemple, des conflits entre les différentes disciplines qui la composent. De l'autre côté, il y a la biologisation pratique qui va se retrouver dans les interactions entre soignants-soignantes et patients-patientes, par exemple. Si on s'intéresse à la prise en charge de la dépression en institution, par exemple, et que cette dépression est expliquée par un manque de sérotonine, qu'est-ce que cela va produire entre les différents professionnels au sein de cette institution, mais aussi auprès des patients ? Ou dans un autre registre, finalement, quand les orthophonistes disent que le bégaiement est produit par une déficience de myéline, est-ce que ce n'est pas un moyen pour eux de déculpabiliser les parents ? C'est donc plutôt cette dimension pratique qui nous a particulièrement questionnés et nous souhaitons donc voir concrètement, dans le domaine de la santé, quels sont les usages sociaux de l'argument biologique. Pour en comprendre les logiques, finalement, quels acteurs et actrices les mobilisent, dans quel contexte et surtout dans quel but. Et est-ce que cette biologisation est au service de la médicalisation ou au contraire, permet de plutôt s'en dégager? Donc l'ensemble de ces questions laisse bien entrevoir qu'il convient de penser les biologisations au pluriel donc, car il en existe plusieurs formes, plusieurs usages, plusieurs modalités.
Le troisième terme qu'on a choisi, c'est le terme de pouvoir, qui est un terme qu'on utilise très souvent en sciences sociales sous l'appellation rapport de pouvoir, qui décrit en fait qui, dans une interaction, est en situation de puissance par rapport à une autre personne. Et si on reprend un petit peu ce qu'en disait Michel Foucault, il y a cette idée que le savoir est une forme de pouvoir. Donc au fond, en questionnant la biologie, nous, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est comment le fait de s'approprier une connaissance, en l'occurrence biologique, permet, dans une interaction quelle qu'elle soit, de contrebalancer, remettre en cause ou au contraire d'asseoir un rapport de pouvoir. Concrètement, on a interrogé du coup le rapport entre évidemment les usagers et usagères des systèmes de santé et les professionnels de santé pour essayer de parler des relations de pouvoir qui existent entre ce type de professionnels. On pense par exemple dans une interaction avec un gynécologue médical au choix de contraception. Est-ce que par exemple une femme, en mobilisant le fait qu'elle a la connaissance que les hormones peuvent avoir une influence sur son humeur, eh bien va pouvoir négocier pour ne pas avoir de contraception hormonale et privilégier par exemple d'autres types de contraception? Donc la question là, c'est comment cet argument biologique va être utilisé de façon en fait à essayer de renverser un petit peu le rapport de pouvoir entre le médecin et la femme qui est dans une situation de demande de contraception. Et on peut aussi l'utiliser plus généralement pour questionner des rapports sociaux que sont ceux de classe, de race, de genre, en se demandant systématiquement comment les appropriations en fait de ces différentes connaissances, elles permettent ou pas à des personnes en situation de domination de récupérer du pouvoir. Un autre exemple qu'on peut donner, qu'on trouvera aussi dans l'ouvrage, c'est celui de la césarienne. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'argumentaires, notamment médicaux, qui culpabilisent énormément les femmes en disant que le fait d'accoucher par césarienne peut avoir, à moyen-long terme, un impact néfaste sur le développement de l'enfant, sur sa scolarisation, sur sa capacité à avoir des apprentissages. Et si on s'intéresse à la façon dont les premières concernées, c'est-à-dire les personnes qui ont eu une césarienne, eh bien, intègre ou conteste cet argumentaire biologisant, on se rend compte en fait de la façon et de la dynamique des rapports de pouvoir. Parce que bien sûr, ces appropriations sont différenciées selon que les femmes soient aient un niveau scolaire élevé ou au contraire qu'elles soient dans des situations un petit peu plus précaires. Donc voilà, nous finalement, l'objectif dans cet ouvrage, c'était de partir d'enquêtes de terrain menées par des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses sur ces questions-là, qui donc ont pu observer des interactions entre des orthophonistes et leurs clients, patients, entre des professionnels de santé. Donc de partir vraiment de ces enquêtes très empiriques pour essayer de montrer en interaction comment chacun, chacune va mobiliser ou pas cet argument biologique pour essayer de justifier son état et finalement d'obtenir un soin qui est tout entier pris dans des relations sociales.
Cet ouvrage, porté par de jeunes chercheuses et chercheurs issus d'un laboratoire junior de l'ENS de Lyon, intéressera à la fois les professionnels de santé, mais aussi toute personne préoccupée par la question des rapports de pouvoir dans le domaine du soin. Retrouvez l'ouvrage « Biologisation, les usages sociaux de l'argument biologique en santé » en version papier sur le site d'ENS Éditions et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection Société Espace Temps.
C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maëlle Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition.